20 ans après la fin de l'URSS. Les manifestations massives dénonçant le trucage des élections législatives du 4 décembre dernier par Poutine ont coïncidé avec le 20e anniversaire de la disparition de l'Union soviétique en décembre 1991. En protestant contre la façon dont le régime russe gouverne le pays, elles font aussi, rétrospectivement, ressortir tout le mensonge, la fausseté des envolées sur la démocratie qui, il y a 20 ans de cela, avait accompagné le démantèlement de l'URSS. À l'époque, en URSS et dans le reste du monde, c'était à qui, parmi les chantres de la société bourgeoise, mettrait le plus d'ardeur à annoncer un avenir radieux de liberté, de démocratie, de prospérité, de développement économique aux peuples de l'ex-Union soviétique. C'était une duperie, un mensonge éhonté, comme si le capitalisme pouvait apporter pareille chose, alors que ce système mène le monde à la catastrophe. L'on pouvait déjà le savoir à l'époque, et il fallait avoir le courage de le dire, même si cette tromperie était soutenue de toutes parts, à droite, comme parmi la gauche social-démocrate, cela va de soi, et même, malheureusement, dans certains cercles de l'extrême-gauche. En URSS même, dans leur écrasante majorité, les dirigeants politiques de la bureaucratie faisaient chorus avec tous les laudateurs du capitalisme. Ils découvraient avec d'autant plus d'enthousiasme ses vertus supposées, certains se faisant fort, entre guillemets, d'instaurer le marché en 500 jours, que, au moins officiellement, il s'agissait de convertis de fraîche date. En effet, sauf rares exceptions, ils étaient encore des hiérarques du régime et de son parti unique dit communiste à l'avant-veille de l'éclatement de l'URSS. Un éclatement auquel, nous y reviendrons, ils avaient, d'une façon ou d'une autre, bien plus poussé et surtout eu bien plus intérêt que les peuples de l'Union soviétique. Pour comprendre comment cela arriva, pourquoi ces événements déclenchèrent une telle jubilation dans le petit monde des idéologues, journalistes, politiciens de la bourgeoisie. Pourquoi, 20 ans après, les mêmes ou leurs pareils se désolent toujours d'avoir à déplorer ce qu'ils appellent, entre guillemets, la nostalgie soviétique des populations de l'ex-URSS. Et aussi pour mesurer la portée de la disparition de l'URSS sur la société, un retour en arrière s'impose. Pour cela, il faut remonter plus loin qu'à la fondation formelle de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, fin décembre 1922. À l'instauration du pouvoir soviétique par la révolution russe d'octobre 1917. Des soviets révolutionnaires à la dégénérescence bureaucratique. L'URSS de 1991 n'avait plus grand-chose à voir avec le pouvoir des soviets, conseil, de députés des ouvriers, des soldats et des paysans qui, en 1917, avaient renversé le tsarisme, puis la bourgeoisie. Et si, pratiquement à tous égards, l'URSS de Gorbatchev, Eltsin et autres lointains successeurs de Staline étaient aux antipodes de celle de Lénine et Trotsky, elle devait pourtant son existence même à cette lointaine origine révolutionnaire et socialiste. Lorsque, en octobre 1917, Lénine, Trotsky et le parti bolchevique avaient conduit les masses exploitées de Russie à s'emparer du pouvoir et à commencer à s'en servir pour jeter les bases d'une société débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, une société ouvrant les voies d'un avenir socialiste, les bolcheviques ne concevaient en aucun cas que cet avenir puisse se construire dans un seul pays, fût-il aussi vaste que la Russie. Ils savaient au contraire que leur révolution serait condamnée à brève échéance si d'autres révolutions socialistes victorieuses, et d'abord dans les pays développés économiquement, ne venaient pas la rejoindre. C'est bien pour cette raison que, dès qu'ils le purent, la Seconde Internationale ayant sombré dans l'union sacrée avec la bourgeoisie durant la Première Guerre mondiale, ils fondèrent une internationale communiste conçue pour être le parti mondial de la Révolution. Après 4 ans d'horreur quotidienne sur les champs de bataille, en mains endroits, les peuples et le prolétariat d'Europe se retournèrent contre les possédants et leur système responsable de la première tuerie mondiale. En Finlande, en Hongrie et surtout à plusieurs reprises en Allemagne, le prolétariat tenta, sans y parvenir nulle part, de renverser le pouvoir de la classe capitaliste pour le remplacer par le sien. Partout, les partis sociaux-démocrates vinrent à la rescousse des classes possédantes. Et là où cela ne suffit pas à étouffer la révolution, voire à la noyer dans le sang des ouvriers, les possédants reçurent l'appui armé des grandes puissances. En Russie, la guerre civile, déclenchée juste après octobre 1917 par les partisans de l'ordre ancien, soutenue militairement par l'impérialisme, ne réussit pas à venir à bout du jeune État ouvrier. Mais elle laissa exsangue ce pays qui était déjà un des plus arriérés d'Europe. un grand nombre de militants et d'ouvriers révolutionnaires avaient péri au front ou des suites des privations. Après des années de guerre mondiale et de guerre civile, survivre au jour le jour devint le problème majeur de travailleurs physiquement, moralement et politiquement épuisés. Au milieu des années 20, la classe ouvrière n'exerçait plus qu'un pouvoir politique nominal. En fait, elle n'avait plus les moyens de contrôler son propre appareil d'État, ni même l'envie, le pouvoir se trouvant désormais aux mains d'une nombreuse bureaucratie. Cet appareil d'État, dira Trotsky, s'était transformé en quelques années, entre guillemets, d'instrument de la classe ouvrière en instrument de violence bureaucratique contre la classe ouvrière. Cette couche sociale usurpatrice du pouvoir n'avait d'autre ambition que de profiter de sa place et des privilèges, misérables dans l'absolu, mais énormes dans un contexte de famine quasi générale, qui l'accompagnait. Aspirant à tout ce qui pouvait conforter leur position de parasites vivant sur les acquis d'octobre, les bureaucrates se reconnurent dans la formule réactionnaire, entre guillemets, du socialisme dans un seul pays, lancée par Staline. Pour Staline et ses partisans, c'était une façon d'annoncer à la bourgeoisie mondiale qu'eux ne chercheraient pas à étendre le socialisme. Les compagnons de Lénine restés fidèles aux idéaux d'octobre, et donc à l'internationalisme prolétarien, ne pouvaient que combattre cette négation du bolchevisme. Lénine étant mort en janvier 1924, il revint à Trotsky de diriger la lutte de l'opposition de gauche contre le cours stalinien dans le Parti communiste, dans l'Internationale communiste et à la tête de l'État. Pendant plusieurs années, les communistes oppositionnels luttèrent pas à pas pour sauver l'État ouvrier de la dégénérescence bureaucratique. Mais dans un contexte de reflux du mouvement révolutionnaire, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ils furent finalement vaincus. L'opposition de gauche fut éliminée politiquement, avant de l'être physiquement dans les camps, les caves du GPU, la police politique, et durant les procès de Moscou de 1936 à 1938. Conséquences du stalinisme sur le mouvement ouvrier en URSS. Pour conforter son régime, celui d'une bureaucratie qui allait désormais diriger l'URSS, Staline fit assassiner plusieurs générations de militants qui, au fil de trois révolutions russes et durant les premières années de l'Internationale communiste, avaient accumulé une expérience politique et organisationnelle sans pareille durant toute l'histoire du mouvement ouvrier. Les conséquences de cet anéantissement furent terribles. En URSS, la classe ouvrière, quand elle reprit force et vigueur, et surtout un poids social grandissant avec l'industrialisation des années 30, se retrouva désarmée, sans plus de militants ni d'organisations pour lui transmettre son héritage politique, militant et organisationnel. Cette rupture du fil de la transmission entre générations des traditions et acquis conscients du mouvement ouvrier, rupture comme on n'en avait jamais connue jusqu'alors, a pesé sur la classe ouvrière jusqu'à la disparition de l'URSS. Et elle pèse toujours dans l'ex-URSS, surtout quand les travailleurs ont ou auraient eu l'occasion d'intervenir au cours d'événements politiques. On le constata en 1962 sous Khrouchtchev, à Novotcherkassk, où des émeutes ouvrières éclatèrent contre les augmentations de prix de 30%. Cette révolte, noyée dans le sang par le régime, ne laissa apparemment pas de traces, bien qu'à la même époque, des événements similaires aient eu lieu dans plusieurs autres villes industrielles. Cela se vérifia encore à une toute autre échelle et avec de toutes autres conséquences, un quart de siècle plus tard. Le prolétariat, classe pourtant la plus nombreuse et concentrée dans les centres urbains de l'URSS à l'époque de Gorbatchev, resta essentiellement spectateur de la tourmente politique d'alors. Et quand, en 1990-1991, de grandes grèves éclatèrent dans les bassins miniers de Russie et d'Ukraine, elles furent conçues et dirigées par la fraction dite démocrate de la bureaucratie comme un soutien à sa lutte contre le pouvoir central. Dans l'immédiat après URSS, s'il y eut des luttes ouvrières, là encore, elles se déroulèrent de façon isolée, souvent le dos au mur, par exemple contre telle ou telle privatisation. Et surtout, toujours sans qu'il existe aucune organisation pour s'adresser aux travailleurs sur leur terrain de classe. Il aurait pourtant été décisif, et en tout cas indispensable, de défendre devant les travailleurs en lutte, et les autres, un programme politique de combat contre les tentatives de restauration capitaliste, contre l'accaparement de l'économie étatisée par les bureaucrates et les apprentis capitalistes. Ce programme révolutionnaire, communiste, aurait ouvert une autre perspective pour les travailleurs et pour l'ensemble de la société. Il aurait cherché à indiquer à la classe ouvrière comment mettre à profit la haine d'une immense majorité de la population envers les pillards, amis du pouvoir d'Eltsine, qui, s'emparant des entreprises étatisées, était responsable de son appauvrissement brutal. Cela dans le but de disputer la direction de la société à cette engeance et de tenter de remettre sur pied une économie débarrassée et des parasites de la bureaucratie et des nouveaux propriétaires des usines, largement considérés comme illégitimes, même bien au-delà des milieux ouvriers. Et aujourd'hui, un tel programme serait encore d'actualité. Encore faudrait-il qu'il y ait des militants pour le défendre, quand au Kazakhstan, des dizaines de milliers d'ouvriers du pétrole défient le pouvoir depuis des mois. Et bien sûr aussi en Russie, quand une fraction de la population exprime dans la rue son rejet du régime, même si, comme il y a 20 ans, ce sont d'abord les membres, entre guillemets, de la classe moyenne qui se mobilisent. Et dans le monde. L'assassinat des révolutionnaires qui avaient rendu possible la victoire d'octobre eut également des conséquences dramatiques sur le plan international. En effet, lors de la remontée des luttes ouvrières au milieu des années 1930, pour faire pièce aux directions traîtres du mouvement ouvrier, qu'elles soient social-démocrates ou staliniennes, il n'y eut plus de direction internationale du mouvement ouvrier digne de ce nom, en tout cas qui ait assez de poids, d'autorité et de relais dans tous les pays, comme celle qu'avaient représenté Lénine, Trotsky et leurs camarades des débuts de l'Internationale communiste. On ne dira jamais assez quel service inestimable le stalinisme a rendu à la bourgeoisie mondiale en ayant anéanti le meilleur du mouvement révolutionnaire de son époque. Une tragédie pour le mouvement ouvrier dont les effets continuent à peser sur ce dernier longtemps après que le stalinisme a disparu en tant que tel. Cela dit, malgré tous les services rendus par le stalinisme à l'ordre bourgeois, de la trahison de la révolution chinoise de 1927 à la capitulation sans combat devant Hitler en 1933, à l'étouffement de la révolution espagnole de 1936, à la restauration de l'ordre impérialiste mondial après 1945, à l'écrasement du mouvement ouvrier en Europe de l'Est et notamment de la révolution hongroise de 1956, etc., l'URSS restait un corps étranger au monde de la bourgeoisie. Même dans les années 70, quand, dirigée par l'équipe des vieillards à la Brejnev, l'URSS menait une politique en tout point réactionnaire, conservatrice, elle restait malgré elle, et surtout malgré ses dirigeants, une source d'inspiration, de soutien pour des mouvements d'émancipation ou d'opposition un peu partout dans le monde. Et surtout, son existence même, anomalie dans un monde dominé par l'impérialisme, constituait une preuve de taille qu'une autre organisation sociale et économique était possible. Car la propriété étatique des moyens de production, la planification de l'économie, le monopole du commerce extérieur avaient permis à l'URSS, malgré le stalinisme et bien qu'elle se trouvât coupée malgré elle de la division internationale du travail, d'afficher des rythmes de développement élevés. Le pays avait ainsi pu construire une industrie puissante, même au plus fort de la crise de 1929 et dans les années qui suivirent, quand l'économie capitaliste s'effondrait. Même l'URSS des bureaucrates rappelait qu'une telle société avait pu se développer sur des bases autres que celles du capitalisme, grâce à l'impulsion d'une révolution qui avait renversé le pouvoir de la bourgeoisie et exproprié les capitalistes. Décembre 1991, voulaient croire les partisans de l'ordre bourgeois, marquait la fin de ce qui était pour eux un cauchemar social de plus de 70 ans, eux qui avaient rabâché, pendant tout ce temps, qu'un régime qui ne reconnaissait ni le marché ni la propriété privée ne pouvait durer. Alors, quand l'URSS s'effondra, fût-ce sous les coups de ses propres dirigeants, les tenants du capitalisme ont fêté la fin, entre guillemets, de ce siècle soviétique, comme l'historien Moshe Lewin a appelé le siècle dernier, ce siècle où la révolution d'octobre et ses suites avaient, selon les mots du révolutionnaire John Reed, entre guillemets, ébranlé le monde, et cela de façon durable. Note 1. Parmi bien d'autres de ses pareils, Jacques Attali, haut fonctionnaire français, conseiller du prince sous Mitterrand, banquier et essayiste, se piquant en toute modestie d'éclairer, entre guillemets, notre avenir d'hypothèses sérieuses, se félicitait en ces termes de l'effondrement de l'URSS et du Bloc de l'Est dans un livre publié alors. Ouvrez les guillemets. Les idéaux libéraux de la démocratie et le marché ont vaincu leur principal adversaire, le défi historique et l'autre vision de la société représentée par le communisme. Fermez les guillemets. Dans Millennium, Winners and Losers in the Coming World Order. Millénaire, gagnants et perdants de l'ordre mondial à venir. 1991. Journaliste, politicien, universitaire, idéologue de la bourgeoisie, exultait de voir, entre guillemets, emporter la plus grande utopie du XXe siècle. Numéro spécial de Libération, septembre 1991. Ils affirmaient même pour certains, tel l'universitaire américain Francis Fukuyama, qu'on assistait, entre guillemets, à la fin de l'histoire. Rien moins que cela. Octobre 1917, ayant voulu ouvrir la voie à un avenir dégagé du capitalisme, la disparition de l'URSS, selon eux, signifiait qu'il n'y avait d'autre avenir que le présent de la société bourgeoise. Un présent qui, n'en déplaise à tous ces gens, remet comme jamais à l'ordre du jour la lutte contre un système capitaliste qui mène l'humanité à sa perte. Dictature sociale de la bureaucratie, dictature personnelle de Staline. À la fin des années 20, la victoire du stalinisme sur l'opposition trotskiste n'avait cependant pas suffi à assurer la stabilité du régime. Les parvenus au pouvoir avaient des raisons de craindre que, tôt ou tard, leur position dominante se trouve remise en question par la classe ouvrière. En effet, même privée de son parti, elle avait acquis une longue expérience de lutte que portaient humainement des centaines de milliers d'anciens participants à ces luttes révolutionnaires. Un autre danger menaçait le régime. Il venait des anciennes classes possédantes qui n'avaient pas renoncé à prendre leur revanche. Et elles reprenaient force et assurance à mesure que les staliniens éliminaient l'avant-garde révolutionnaire. La politique empirique d'un régime ayant rompu avec le bolchevisme et n'ayant d'autre objectif que de durer contribuait à accroître de tels dangers. Et cela d'autant plus que, individuellement, les bureaucrates se souciaient comme d'une guigne de pareils risques, préoccupés uniquement qu'ils étaient de profiter sans entrave de leur position. Les privilèges des bureaucrates ne reposaient pas, comme ceux des capitalistes, sur la propriété privée des moyens de production, justification dans la société bourgeoise de l'appropriation privée des fruits de l'exploitation des travailleurs. Ils provenaient du parasitisme qu'ils exerçaient sur une société telle que la Révolution avait permis de la transformer une fois expropriée la bourgeoisie. Leur prélèvement sur l'économie et la façon antidémocratique qu'ils avaient de diriger la société tendaient à vider de leur sens et à compromettre les acquis de la Révolution. Mais les bureaucrates ne cherchèrent pas à remettre en question la collectivisation des moyens de production ainsi que d'échange, ni la planification de l'économie, car c'était précisément de cette base que, en la parasitant, ils tiraient leurs privilèges. Toutefois, les aléas des luttes de pouvoir au sein des cercles dirigeants, ainsi que le risque toujours présent que triomphe la contre-révolution, comme lorsque, au tournant des années 30, la politique stalinienne de collectivisation forcée des terres dressa contre elle et contre l'État ouvrier que la paysannerie en rendait responsable la grande majorité des campagnes dans ce pays encore essentiellement rural, amenèrent le régime à prendre des mesures radicales pour assurer sa propre pérennité. Pour protéger la dictature sociale de sa caste, le régime imposa à toute la société une discipline de fer qui allait rapidement reposer sur la dictature d'un chef érigé en arbitre suprême, Staline. La classe ouvrière, la paysannerie enrôlée dans les kolkhozes ou envoyée construire les nouveaux combinats industriels, furent soumises à un féroce régime de casernes. Un retard de plus de 10 minutes au travail pouvait valoir l'envoi en camp. L'intelligentsia dut applaudir au culte de la personnalité de Staline, à ses lubies, aux conceptions réactionnaires qu'il imposait dans les domaines de l'art, de la culture et des sciences, au risque de finir derrière les barbelés. La logique répressive de la dictature, s'ajoutant au fait que le régime devait également se protéger de l'irresponsabilité de sa propre caste privilégiée, les bureaucrates se trouvèrent eux-mêmes, rapidement, sous la menace permanente d'une exécution sur ordre du tyran. Les crises internes succédant aux tensions croissantes sur la scène internationale, montée du nazisme, révolution espagnole, course à la guerre, invasion hitlérienne, victoire sur le nazisme rendue possible grâce au sacrifice et au courage de la population soviétique alors que la direction stalinienne avait désorganisé l'armée rouge, reconstruction d'un pays dévasté sur fond de début de guerre froide, Staline put imposer sa dictature personnelle sur la société pendant plus de 2 décennies. Mais en 1953, à la mort du tyran, les choses allaient changer radicalement. Non pour la classe ouvrière et pour le reste de la population, mais pour les bureaucrates. Ils obtinrent des successeurs de Staline de ne plus avoir à craindre pour leur tête, ni même bientôt pour leur place. Sous la tutelle de Brejnev, chef de la bureaucratie de 1964, date de la chute de Khrouchtchev, à son décès en 1982, un consensus s'établit entre le Kremlin et l'ensemble de la couche privilégiée. Chacun vaquait à ses affaires, pourvu que cela ne compromette pas les positions établies des uns et des autres, et surtout la stabilité du système. Le pillage de la bureaucratie s'accélère. sous le couvercle de ce que Gorbatchev appela, entre guillemets, la stagnation brejnevienne, la bureaucratie put accroître notablement et en presque totale impunité ses prélèvements sur le corps social. Elle renforça son organisation en clans puissants autour de chefs devenus pratiquement inamovibles à la tête de républiques, de ministères, des douanes, du KGB, la police politique, des directions du commerce extérieur, des grandes entreprises, des banques traitant avec l'étranger. Devenus titulaires de véritables fiefs, les chefs de la bureaucratie nouèrent aussi de solides liens d'affaires avec, entre guillemets, le milieu qui proliférait dans, entre guillemets, l'économie de l'ombre et plus généralement partout où une équipe tenant en main un morceau de pouvoir pouvait en retirer des avantages de plus en plus substantiels. Les cercles du pouvoir, donnant carte blanche à ce parasitisme organisé à grande échelle, cela eut pour effet d'épuiser ce qu'il restait du dynamisme économique hérité des conquêtes révolutionnaires d'octobre. Soumise à un pillage débridé sous Brejnev, l'économie de l'URSS voyait sa croissance s'essouffler. Alors, après qu'eurent disparu les derniers dinosaures du bureau politique brejnevien entre 1982 et 1985, quand Gorbatchev, élu secrétaire général du Parti communiste soviétique, déclara vouloir remettre de l'ordre dans l'économie, et même dans la société avec la perestroïka, en russe reconstruction de faute en comble ou refonte, le simple fait de l'envisager apparut à de nombreux bureaucrates comme menaçant directement leur rente de situation. Il eut d'abord affaire à une sourde opposition des hautes sphères du pouvoir. Pour la contourner, comme Khrouchtchev, et pour des raisons assez semblables lors du dégel post-stalinien, Gorbatchev et son équipe cherchèrent d'abord des alliés dans les rangs moyens de l'appareil dirigeant, en leur promettant plus d'autonomie vis-à-vis, entre guillemets, du centre. Cela ne suffisant toujours pas, ils se tournèrent alors vers l'intelligentsia en lui faisant miroiter un peu plus de liberté d'expression, en russe « glasnost », autre slogan phare de la politique de Gorbatchev, de création. Puis, la petite bourgeoisie, même intellectuelle, ne vivant pas seulement d'eau fraîche, entre guillemets, la liberté d'entreprendre lui fut promise. Dans cette Union soviétique, où la propriété privée des moyens de production avait été abolie, même s'il existait des formes légales de propriété coopérative, dans l'agriculture avec les kolkhozes et d'un autre genre dans le logement, on a alors vu éclore une nuée de coopératives, une dénomination cachant bien mal de petites entreprises privées. Lutte de pouvoir et effervescence contestatrice. Cela souleva l'enthousiasme et les appétits de nombreux petits bourgeois qui rêvaient de vivre, entre guillemets, comme à l'Ouest. En fait, de pouvoir librement profiter de leur argent, voire de pouvoir l'investir comme capital dans les moyens de production comme en Europe occidentale et en Amérique. Ils appelaient cela, entre guillemets, « aspirer à la démocratie ». Cela eut aussi pour effet d'ouvrir un boulevard à la surenchère démagogique de certains qui avaient jusqu'alors soutenu Gorbatchev parmi, entre guillemets, la jeune génération des chefs du parti au pouvoir. À commencer par le suppléant du bureau politique, Boris Eltsine, qui, rivalisant avec Gorbatchev, allait prendre la tête du camp dit, entre guillemets, « démocrate ». À des millions de bureaucrates et de petits bourgeois que Gorbatchev croyait avoir conquis en lançant sa politique de glasnost, de, entre guillemets, transparence des débats et de, entre guillemets, paroles libérées, puis de création de coopératives, Eltsine et ses amis autoproclamés démocrates parlèrent du règne, entre guillemets, de la démocratie et de la, entre guillemets, liberté qu'ils se targuaient d'instaurer. On assista alors à une floraison de publications comme n'auraient osé en rêver les dissidents du Samizdat. Littéralement, les publications, entre guillemets, auto-éditées, par opposition à celles du Gozizdat, ou, entre guillemets, édition d'État, les seules autorisées. On risquait la prison à faire circuler un Samizdat. Bientôt, on abolit même la censure. Du jamais vu depuis Staline, on organisa des élections à candidatures multiples. Puis, d'autres partis que le Parti communiste de l'Union soviétique, le parti prétendument communiste de l'Union soviétique, acquirent droit de cité avant qu'on ne retire de la Constitution le monopole du dit Parti communiste d'Union soviétique. Des millions de soviétiques se passionnaient pour les débats au Soviet suprême, retransmis pour la première fois en direct à la télévision, pour les révélations dans la presse et dans l'édition d'idées et de faits jusqu'alors inconnus du grand public, pour, entre guillemets, le retour des noms, de militants, d'écrivains, de scientifiques que le stalinisme avait fait disparaître deux fois, en les assassinant, puis en effaçant toute trace d'eux dans l'histoire officielle, les bibliothèques, etc. Note, le retour des noms est le titre d'un livre soviétique de l'époque traitant de ce sujet. Quant aux manifestations contre les agissements des autorités, chose impensable jusqu'alors, drainant des foules considérables, elles se multipliaient au point d'en devenir presque un phénomène banal. Face à cette effervescence de plus en plus dirigée contre lui, le pouvoir central ne savait plus quelle attitude adopter. La laissant faire, il encourageait ses opposants. La réprimant en envoyant l'armée faire des bains de sang comme en Géorgie ou dans les républiques baltes, annexées par Staline avec l'accord de Hitler, il renforçait le sentiment national dans la population locale et les politiciens locaux indépendantistes. Quant aux bureaucrates dirigeant les républiques, l'Union soviétique en comptait 15 de plein exercice, ils s'évertuaient partout à faire tout pour que l'irruption de masses de gens sur les places, dans les manifestations, conforte leur emprise sur leurs fiefs au détriment du centre. Et ils prenaient d'autant plus d'assurance sur ce terrain qu'à la tête de la principale république, la Russie, Eltsine appelait les autres républiques, entre guillemets, à prendre le plus d'autonomie qu'elles pourraient, afin d'affaiblir le pouvoir du chef en titre de la bureaucratie. Gorbatchev. Le feu vert pour les appétits des bureaucrates. Car c'était là l'enjeu majeur, même s'il était en grande partie masqué aux yeux des populations, des luttes de pouvoir au sein de la bureaucratie depuis des décennies. En fait, depuis qu'avec Staline, cette couche sociale parasitaire avait usurpé le pouvoir, elle cherchait à s'émanciper de toute tutelle, fût-elle celle de son propre personnel politique. La démocratie, dont se gargarisait Eltsine et ses soutiens dans l'appareil dirigeant, laissait augurer aux bureaucrates qu'ils n'auraient plus à plier devant quelque contrainte ou contrôle de leurs activités, même émanant d'une autorité issue de leur rang. Quant à la liberté, promise par ces mêmes entre guillemets, réformateurs, si elle faisait rêver des millions de petits bourgeois, qui allaient être sévèrement douchés dans leurs illusions, nous y reviendrons, les bureaucrates, eux, ne rêvaient pas. Ils agissaient. Profitant de l'affaiblissement croissant du pouvoir central, puis de sa paralysie, ils entreprirent de faire main basse sur tout ce qui pouvait rapporter vite et gros. Avant même que les lois de privatisation de 1992 et 1993 commencent à légaliser ce hold-up du siècle, des coopératives, puis des joint ventures, sociétés mixtes à capitaux soviétiques et étrangers, avaient été mises sur pied par les directions d'entreprise, les responsables des ministères, du KGB, du Parti communiste d'Union soviétique, les administrations des républiques et des régions. Leur but, vider les entreprises publiques de leurs actifs et s'emparer des revenus de leurs secteurs les plus rentables. Ils n'eurent aucune difficulté à le faire puisque, précisément, ils avaient la haute main sur ce qu'ils pillaient. Ainsi, Gazprom, actuel géant mondial du gaz, fut constitué en société privée par les dirigeants du ministère soviétique du gaz. Moins connus, mais tout aussi parlants, sont le cas des hauts responsables du commerce extérieur ou celui des dirigeants du complexe militaro-industriel qui, alliés de responsables du KGB et de départements du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, entre guillemets, exfiltrèrent vers l'Ouest dès 1987-1988 des masses d'argent encore mal évaluées. L'éclosion, un peu plus tard, d'une nuée de petites banques sous l'égide de tel ou tel clan de la bureaucratie sectorielle doit tout à la volonté de chacune de ces cliques de disposer de sa propre machine à faire passer à l'étranger la plus grande part de ce qu'elle volait ou détournait dans le pays, sans avoir à se soumettre au moindre contrôle. La liberté vantée par les dirigeants, entre guillemets, démocrates, réformateurs et autres, entre guillemets, libéraux, s'affichant de plus en plus comme partisans d'un retour au capitalisme, c'était celle des renards de la bureaucratie dans le poulailler soviétique. L'URSS n'y a pas survécu. Un pouvoir central en déliquescence. À partir de 1990, on vit les bureaucrates dirigeant les républiques établir un contrôle de leurs exportations vers le reste du pays afin de garder pour eux-mêmes les richesses de leurs fiefs et de l'emporter dans le bras de fer les opposants à l'exécutif pour savoir qui aurait la prééminence sur l'autre. Le résultat en fut que, les échanges interrégionaux se contractant, les entreprises de toute l'URSS se mirent à tourner au ralenti. Les magasins se vidèrent et on instaura des mesures de rationnement pour la population. Cette situation de crise, provoquée, évolua en un chaos économique généralisé, tandis que la paralysie politique gagnait la tête de l'État. De plus en plus de dirigeants, du camp dit démocrate au entre guillemets conservateur, en passant par Gorbatchev et sa garde rapprochée, se mirent à affirmer qu'il fallait en finir avec la propriété d'État, la planification, toutes deux déjà niées dans les faits par la razzia de la bureaucratie sur les entreprises. Gorbatchev en vint à parler de, entre guillemets, socialisme de marché, pour ne pas dire crûment, restauration du capitalisme. l'Union soviétique était au bord de l'implosion. Dans le même temps, on assistait à une explosion de nationalismes, souvent rivaux, dans tout le pays, au fil des proclamations entre guillemets de souveraineté des républiques par leurs dirigeants, sur fond de surenchère ici et là de mouvements nationalistes. En août 1991, quelques hiérarques du régime tentèrent d'empêcher que le processus de délitement de l'État n'atteigne un point de non-retour. Ils décrétèrent l'état d'urgence. Cela ne fit qu'accroître l'anarchie politique. Même dans l'armée, la police et le KGB, il n'y eut personne pour appliquer leurs ordres. 3 jours plus tard, les putschistes se rendaient ou se suicidaient. Eltsine, qui réclamait depuis des mois la démission de Gorbatchev, avait définitivement pris le pas sur ce dernier. Mais, le pays achevant de se fractionner en unités indépendantes de droit, l'exécutif russe, avec Eltsine à sa tête, n'avait guère plus de prise que Gorbatchev avant lui sur le cours des événements. Partout où il n'y avait pas encore pensé, les chefs de la bureaucratie se hâtèrent de proclamer, non plus la souveraineté, mais l'indépendance de, entre guillemets, leur république, et des richesses s'y trouvant. Au niveau des républiques et des régions, les chefs de la bureaucratie s'employaient activement à renforcer leur emprise sur leurs fiefs en s'appuyant sur la fraction de la population la plus nombreuse au détriment des minorités locales, ce qui s'accompagnait de plus en plus d'affrontements entre des populations vivant côte à côte. Dans le Caucase, mais aussi en Asie centrale et en Moldavie, les bureaucrates avaient ressuscité ou suscité des conflits ethniques comme un moyen de s'imposer sur leur population en détournant ses ressentiments contre d'autres pauvres. C'est dans ce climat que, le 8 décembre 1991, Eltsine, Kravchuk et Shushkevitch, les dirigeants respectifs de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, décrétèrent, sans mandat et en catimini, lors d'une réunion dans un relais de chasse près de Minsk, que l'URSS était dissoute. Les républiques baltes n'avaient pas attendu cela pour se déclarer indépendantes. La Géorgie, elle, se réjouit de cette décision. Mais d'autres furent mises devant le fait accompli, tel le Kazakhstan, seconde république soviétique par sa taille, qui protesta contre ce coup de force. Les hautes sphères de la bureaucratie avaient démantelé l'URSS pour se débarrasser de la tutelle du pouvoir central. Elles allaient maintenant s'en partager les dépouilles. Les conflits nés autour de ce dépeçage ne sont, 2 décennies plus tard, résolus ni entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où une première guerre avait éclaté dès 1987 pour la possession de l'enclave du Haut-Karabakh, ni entre la Géorgie et ses républiques ossètes et abkhazes, devenues des protectorats de fait de la Russie. Et pas plus entre la Moldavie roumanophone et la République russophone sécessionniste de Transnistrie, où stationnent des militaires russes. Ou encore, dans la vallée très peuplée de Fergana et ses alentours, enchevêtrement inextricable de peuples tiraillés désormais entre 3 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale devenues indépendantes et soumises à des despotes. Sans oublier la mosaïque de peuples des républiques caucasiennes de la Fédération de Russie, dont les habitants vivent dans la crainte quotidienne des attentats et exactions de bandes armées, étatiques ou non. L'exemple le plus connu est celui du président mafieux teinté d'intégrisme religieux auquel le Kremlin a donné carte blanche dans une Tchétchénie martyrisée par 2 guerres en 15 ans pour y imposer l'ordre avec ses bandes de tueurs. Menaçant régulièrement de se muer en guerre ouverte, comme entre la Russie et la Géorgie durant l'été 2008, ou en pogrom gigantesque contre des minorités ethniques, comme en Azerbaïdjan en 1990 ou au Kirghizistan en 2010, ces conflits ont fait, ces 2 dernières décennies, un enfer pour les peuples de ces régions. L'URSS démembrée. 15 républiques indépendantes. De quoi ? Aujourd'hui, la situation est bien sûr fort différente selon les États issus de l'Union soviétique. Mais une chose est certaine, tous ont pâti de son démembrement. Économiquement, parce que leurs productions et leurs entreprises ayant été conçues et développées comme complémentaires, interdépendantes dans le cadre d'un tout unifié et planifié, ces pays ne pouvaient guère, sauf peut-être la Russie, constituer par eux-mêmes des économies nationales viables. Ensuite, parce que dans l'Est de l'Europe, en Sibérie russe et en Asie, vivent des centaines de peuples et ethnies qui s'étaient déplacés et mélangés dans le cadre immense d'un même pays. Selon la constitution soviétique, tous ces peuples étaient égaux, en tout cas aussi égaux qu'ils pouvaient l'être sous la botte de la bureaucratie. Note. Le stalinisme a, dans ce domaine aussi, atteint des sommets d'abomination. De 1936 à 1951, la politique de terreur a abouti à ce que plusieurs peuples ou minorités ont été en totalité ou en partie déportés, dans des conditions effroyables, vers d'autres régions de l'URSS. Polonais, Allemands de la Volga, Coréens, Baltes, Karatchaï, Kalmouks, Tchétchènes, Ingouches, Balkars, Tatars et Grecs de Crimée, Moldaves, Arméniens. Ouvrez les guillemets, un gigantesque transfert meurtrier dont les conséquences empoisonnent toujours l'existence de l'ex-URSS. Fermez les guillemets. Jean-Jacques Marie, Les peuples déportés d'Union soviétique, 1995. Mais dès que des limites de république, qui n'étaient qu'administratives, se muèrent en frontières d'État, la situation s'aggrava. Notamment parce que, en haut lieu, on a souvent cherché à dresser, contre telle ou telle minorité, la majorité de la population de ces entités nouvellement indépendantes. Et puis, le même peuple, majoritaire ici, se trouvant minoritaire de l'autre côté de la frontière, cela n'a cessé depuis d'attiser les irrédentismes, les nationalismes, de susciter la haine du voisin. La négation par le Kremlin du droit à l'autodétermination des peuples a eu pour résultat que l'armée russe a mené deux guerres atroces contre la population de la petite république indépendantiste de Tchétchénie. Le Kremlin, ou plutôt les cliques qui s'y disputaient le pouvoir, ayant attisé les tensions, notamment nationales, pour en jouer dans cette région d'où Staline avait fait déporter collectivement plusieurs peuples, la guerre dite de Tchétchénie a depuis largement embrasé tout le versant russe du Caucase. Même dans les régions les plus occidentales de l'ex-URSS, la question nationale n'en finit pas de ressurgir sous forme d'une violence faite au peuple. Renversement de situation depuis que Staline et ses successeurs avaient essayé de russifier les pays baltes, les fortes minorités russophones d'Estonie, Lettonie et Lituanie y sont maintenant discriminées et parfois privées de droits civiques. Cela sans que les dirigeants de l'Union européenne, qu'ont rejoint ces États, y trouvent à redire. Tombés sous la dépendance du capital ouest européen, notamment scandinave, les pays baltes ont été parmi les plus touchés en Europe par les répercussions de la crise financière de 2008 et, toutes nationalités confondues, leurs salariés du privé, fonctionnaires et retraités ont vu leurs revenus baisser et le chômage s'envoler. Sur les 12 autres ex-républiques soviétiques, celles d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizistan, Tadjikistan et, dans une moindre mesure, celles du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, ont vu à leurs maux anciens s'en surajouter de nouveaux. Du temps de l'URSS, ces régions souffraient d'un relatif retard économique par rapport au reste du pays, même si, au regard de leurs voisins étrangers, le système soviétique les avait fait grandement progresser sur le plan économique, culturel et social, de la survivance de vieux systèmes claniques qui se combinaient avec le clientélisme à grande échelle et le système de cliques de la bureaucratie brejnevienne. Certains des plus retentissants scandales de détournement de la propriété d'État de l'époque avaient eu précisément pour cadre l'Asie centrale soviétique. Depuis la chute de l'URSS, dans ces régions, la corruption, le népotisme ont été poussés à des extrêmes jamais vus. Des clans souvent familiaux accaparent le pouvoir, parfois depuis bien avant la fin de l'URSS. En Azerbaïdjan et plus encore au Kazakhstan, dont l'actuel président Nazarbayev était déjà Premier ministre en 1984 et premier secrétaire du PC kazakh en 1989. Interdisant généralement toute opposition organisée, ces régimes sont des dictatures auxquelles la religion sert souvent d'idéologie officielle et de moyen d'encadrer la population. Que ce retour vers l'obscurantisme écrase d'abord les femmes et que ces régimes ne fassent même pas semblant de respecter un minimum de décorum démocratique n'aimait guère leur puissance tutélaire, occidentale ou russe. Dans les stratégies militaires, commerciales et énergétiques de ces dernières, ces pays, pour la plupart riches en hydrocarbures ou voies de transit pour les oléoducs, ne sont que des pions. Alors, l'immense majorité des habitants de l'Asie centrale et du Caucase ex-soviétique s'enfonce dans une misère sans fond. Ils se trouvent généralement soumis à des régimes dictatoriaux, corrompus jusqu'à la moelle et réactionnaires. Et si les médias et chancelleries des États dits démocratiques n'en ont cure, c'est que leurs compagnies pétrolières et leurs grosses sociétés exportatrices ont trop intérêt à une barbarie qui garantit l'ordre des exploiteurs et surtout leur profit. En revanche, les mêmes n'hésitent pas à condamner ce qu'ils nomment, entre guillemets, la dernière dictature en Europe, le régime biélorusse. Loukachenko, chef de la plus petite des ex-républiques slaves de l'URSS, la Biélorussie, piétine toute forme d'opposition, fait emprisonner ses concurrents lors des scrutins qu'il se croit tenu d'organiser et mène son pays d'une main de fer. C'est indéniable. Bien sûr, ce que l'Occident lui reproche, ce n'est pas cela, car cela ne le distingue en rien de nombre de ses pareils, eux bien en cours auprès des gouvernements occidentaux. Mais le fait que, tout en ayant privatisé certains pans de l'économie, le régime maintient un secteur public largement majoritaire sous des formes qui rappellent ce qui existait du temps de l'URSS. Et c'est impardonnable du point de vue des tenants de l'ordre capitaliste mondial. Étant donné que les économies des républiques soviétiques étaient interdépendantes, la spécialisation économique poussée de la petite Biélorussie dans le cadre du plan soviétique la fragilisait plus que d'autres face à la concurrence internationale après l'éclatement de l'URSS. La bureaucratie biélorusse n'a donc vu son salut que dans le maintien d'une économie largement étatisée. Bien sûr, cela n'a pas protégé le pays, surtout après la crise de 2008. Cette crise a fait se contracter ses échanges avec l'Occident et vu son principal partenaire économique et semi-allié politique, la Russie, lui imposer des conditions commerciales et financières draconiennes. Mais si elle subit une forme de dictature, la population biélorusse avait sans doute jusqu'à récemment l'impression d'avoir aussi échappé au sort socialement et économiquement peu enviable de ses sœurs russes et ukrainiennes. En Ukraine, comme en Russie, les classes populaires ont vu leur niveau de vie s'effondrer du fait de la disparition de l'URSS. Présentant cela comme une voie de salut, les équipes dirigeantes ukrainiennes ont louvoyé pendant 20 ans entre des tentatives de rapprochement avec l'Ouest, l'Union européenne et l'OTAN, et des rebuffades de ces derniers qui amenaient à un réchauffement des liens de l'Ukraine avec la Russie. Mais sans toutefois que l'actuel président Ianoukovitch aille jusqu'à adhérer à l'union économique que la Russie vient de constituer avec la Biélorussie et le Kazakhstan. Si les dirigeants ukrainiens actuels, même entre guillemets pro-russes, refusent d'aller plus loin dans un rapprochement avec leurs grands voisins, malgré toute la dépendance aujourd'hui encore de leurs économies respectives, c'est que la plupart des bureaucrates ukrainiens n'estiment pas y avoir intérêt. Certes, c'est dans l'est russophone de l'Ukraine, là où se concentre le principal de la puissance économique du pays, mines, industrie lourde, que les dirigeants actuels ont leur fief, base de leur pouvoir et source de l'enrichissement de leur clan. Mais c'est précisément ce qu'ils cherchent à protéger d'accords qui risqueraient de soumettre ces entreprises, ces fiefs et ces clans à une tutelle extérieure à la bureaucratie affairiste ukrainienne. Si l'Ukraine se flatte d'être co-organisatrice avec la Pologne du prochain championnat d'Europe de football, la rénovation des infrastructures hôtelières, sportives et de transport qui devaient accompagner cet événement n'avance guère. Les caisses de l'État étant vides depuis des années, il n'a même plus vraiment les moyens d'offrir, à défaut de pain, des jeux à la population. La rapacité des bureaucrates et la corruption des équipes dirigeantes successives, auxquelles se sont surajoutés les effets de la crise de 2008, ont mis le pays à genoux. Ce qui fut la seconde en importance des républiques soviétiques en est désormais à compter sur les prêts du FMI pour boucler son budget. Le cas de la Russie. République de loin la plus étendue, la plus peuplée, avec 143 millions d'habitants, et économiquement la plus riche de l'ex-URSS, la Russie n'est certes pas aussi mal en point que l'Ukraine. À la différence de celle-ci, elle a beaucoup de pétrole et encore plus de gaz, au point d'en être le premier exportateur mondial, ce qui lui assure de confortables rentrées de devises. Illustration vivante du tableau périodique des éléments de Mandaleïev, son sous-sol dispose en outre de presque toutes les matières premières utilisées par l'industrie mondiale. Heureusement pour les finances de la Russie, qui sinon seraient à sec, tant le pillage de son économie s'est emballé. Malheureusement aussi, ne cessent de dire en quelque sorte les dirigeants russes. En effet, ils constatent, tel le président russe Medvedev, que, depuis l'effondrement post-soviétique de son économie, de 1991 à 1999, les indicateurs de la production russe avaient reculé de moitié depuis la période soviétique, cela en moins de 10 ans, le pays est, entre guillemets, dans un état de dépendance humiliante vis-à-vis de ses exportations de matières premières. Dans presque tous les domaines, y compris l'armement, un comble pour ce qui fut la seconde grande puissance militaire de l'après-guerre, la Russie en est réduite à importer une grande partie de ce qu'elle consomme et de ce dont a besoin son industrie. Et pour cela, elle ne peut compter que sur les rentrées en devises de la manne pétrolière et gazière, il est vrai multiplié par 7 entre 2001 et 2008, et dans une moindre mesure sur ce que lui rapportent ses exportations de minerais, pierres précieuses et bois. Mais même dans le domaine du bois, par exemple, et la Russie en exporte beaucoup, elle en est maintenant à devoir s'en remettre à des groupes scandinaves pour assurer sa production et ses importations de produits dérivés du bois à haute valeur ajoutée, telle la pâte à papier. On a là une illustration parmi bien d'autres du recul fantastique des capacités productrices qui a accompagné depuis 20 ans la disparition de l'URSS. Dans le domaine non plus industriel mais agricole, les effets de la destruction des structures de production coopérative ou étatisées, kolkhoz et sovkhoz, se reflètent dans le fait que les étals des grands magasins offrent une gamme toujours plus limitée de produits russes au profit des importations de l'industrie agroalimentaire ouest-européenne, mais aussi dans les indicateurs de la désertification de l'espace rural. Alors que l'économie étatisée et planifiée avait permis de multiplier et de développer les entre guillemets points d'habitation, même dans des régions délaissées par le tsarisme, des 155 000 villages que comptait la Russie en 1990, près de 10% ne comptaient plus âme qui vive en 2009. On voit là le gouffre qui sépare la réalité des pronostics des entre guillemets spécialistes et autres entre guillemets bons docteurs de l'économie de marché qui, à la fin des années 80, s'étaient précipités en URSS pour y conseiller les Eltsine et consorts sur les meilleurs moyens de remplacer l'économie étatisée et planifiée, qu'ils décrivaient comme inefficace, par un système censé assurer un renouveau de croissance et de développement. Cela a certes permis à des margoulins de s'enrichir à la vitesse de l'éclair et, même si l'on en parle moins, à des sociétés occidentales de conclure des contrats léonins, dans le pétrole et l'industrie notamment, dont leurs partenaires russes ont parfois mis des années à se libérer. Mais, pour le reste, ce que l'on présentait comme une transition de l'économie soviétique vers celle dite de marché, en fait, elle tenait surtout du bazar, au sens où les bureaucrates bazardaient à leur profit quasi exclusif la propriété de l'État, au sens aussi où cela a entraîné un chaos difficilement imaginable dans toutes les sphères de la société, pouvoir compris, a conduit à une situation cauchemardesque. Vidés de leur substance par leurs anciennes directions, ou par les cliques qui les avaient évincés, privatisés de façon massive, c'est-à-dire bradés à prix d'amis par les bureaucrates à eux-mêmes, les entreprises ne fonctionnaient plus, laissant leurs travailleurs sans salaire pendant des mois, les entreprises ne payant pas non plus leurs fournisseurs, ceux-ci licenciaient à leur tour. Lors de ce que les conseillers occidentaux des dirigeants russes ont appelé, entre guillemets, la thérapie de choc, opération qui visait à faire les poches de la population tout en remplissant les comptes en banque étrangers des bureaucrates, les prix explosèrent. En quelques mois, l'inflation atteignit 1 000, voire 2 000%, réduisant à néant les maigres économies de ceux qui en avaient, précipitant dans la misère des dizaines de millions de retraités, de salariés sans salaire, de travailleurs de secteurs publics ou sociaux qui, faute de subventions, cessaient de fonctionner. Et puis, il y eut, entre guillemets, les réformes, appellation hypocrite pour désigner la légalisation du transfert à grande échelle du plus possible de la propriété d'État dans les mains de bureaucrates affairistes qui s'empressaient de liquider ce qui ne leur apparaissait pas assez rentable ou qui pouvait rapporter gros à condition de le revendre aussitôt. À qui profite le crime? Ouvrez les guillemets, seulement 10% des habitants de la Russie ont profité de l'effondrement de l'URSS et des réformes qui s'en sont ensuivies. Fermez les guillemets, titrait récemment la une de RBK, numéro du 22 juin 2011, un quotidien russe des milieux d'affaires, en commentant les résultats d'une étude de l'Académie des sciences de Russie. La chose est si évidente que la constater est aujourd'hui banale en Russie. Apparemment ici aussi. En tout cas, on n'a pas entendu, à l'occasion de ce 20e anniversaire, les commentateurs et idéologues de la bourgeoisie reprendre les pronostics de progrès et promesses de démocratie dont ils emplissaient alors les médias. Car à l'époque, bien moins nombreux étaient ceux qui, comme notre tendance, affirmaient à contre-courant des faiseurs d'opinion, conformistes et tenants de l'ordre établi, que rien de bon ne pouvait surgir pour les peuples des conditions dans lesquelles l'URSS s'enfonçait, coulée par la course à l'enrichissement, l'irresponsabilité de sa caste dirigeante. Note. Dans le texte concernant l'URSS, daté du 27 octobre 1990, soumis au congrès de 1990 de lutte ouvrière, nous écrivions, ouvrez les guillemets, si les travailleurs laissent le capitalisme se rétablir en URSS, même partiellement, c'est l'abaissement de leur niveau de vie, le chômage, la fin des quelques avantages sociaux dont ils pouvaient bénéficier qu'ils connaîtront, et non l'opulence, même relative, de l'Occident. L'URSS ne verrait pas le niveau de vie de l'ensemble de sa population s'élever, bien au contraire, elle serait ramenée au niveau du tiers-monde, Ce serait alors un recul pour le prolétariat mondial. Fermez les guillemets. En mars 1991, dans un article de lutte de classe intitulé entre guillemets, tentative de contre-révolution bourgeoise, zigzag bureaucratique, quelle politique pour la classe ouvrière? Nous écrivions encore. Ouvrez les guillemets. La seule chose certaine, c'est que, si la politique des démocrates, entre guillemets, aboutit à quelque chose, ce ne pourra être qu'une société apportant une plus grande possibilité d'accumulation et d'enrichissement pour quelques-uns et un appauvrissement pour une grande partie, sinon la totalité du prolétariat. Cette inégalité plus grande pourrait être saupoudrée d'une certaine dose, entre guillemets, de démocratie, du même type que ce qu'apportent à leur classe pauvre les grandes, entre guillemets, démocraties pauvres, comme le Brésil ou l'Inde. Mais ce n'est même pas dit. Fermez les guillemets. Pour notre congrès de 1991, le texte rédigé, quelques semaines avant l'implosion de l'URSS, affirmait, ouvrez les guillemets, une organisation révolutionnaire en URSS devrait avoir à son programme la lutte contre les privatisations et la réintroduction du capitalisme. Elle devrait se servir du prix que la situation actuelle fait payer aux masses pour les mobiliser sur ce terrain. De même, elle devrait défendre la planification, idéologiquement d'abord et matériellement si elle le peut. C'est l'un des rares moyens de s'opposer à l'heure actuelle, auprès des masses, à l'éclatement de l'URSS, en montrant qu'il y a des intérêts communs aux peuples de l'ex-Union qu'il faut préserver. Seul le prolétariat peut à la fois défendre la liberté et la pluralité et la fédération la plus vaste, bénéficiant d'une planification commune. Fermez les guillemets, fin de la note. Et bien peu disaient douter que, même ayant proclamé leur pays ouvert au marché, les dirigeants de l'ex-URSS puissent faire surgir le capitalisme aussi facilement qu'ils le prétendaient. Autrement dit, la Russie et les autres républiques soviétiques ne pourraient pas faire fonctionner leur économie sur des bases capitalistes tout en conservant au moins le niveau de développement qu'elles avaient acquis du temps de l'URSS, avec une bourgeoisie capitaliste correspondant à pareil niveau de développement. Deux décennies ont passé et le constat est sans appel. L'économie soviétique s'est effondrée. Juste après la fin de l'URSS, elle en était revenue à un niveau tellement bas que les entreprises en étaient réduites à pratiquer le troc entre elles. Et même si, après le krach de l'été 1998, quand l'État russe, à force d'avoir vu ses finances mises à sac, a dû se déclarer en cessation de paiement, l'économie a repris quelques couleurs, celle-ci reste bien pâle de l'aveu des autorités russes. Certes, à côté de la masse des bureaucrates et des milliardaires enrichis sous l'aile de l'État, cela a provoqué l'émergence d'une petite bourgeoisie d'affaires. Mais outre que l'avenir de cette, entre guillemets, classe moyenne n'est en rien assuré, arlésienne de ceux qui veulent croire en un développement capitaliste de la Russie, elle a été laminée lors de la thérapie de choc de 1992-1993, puis une nouvelle fois en 1998 et à nouveau fort mise à mal depuis 2008 dans la foulée de la crise financière mondiale. Cela n'a en aucun cas stabilisé la situation générale. La fuite des capitaux, qui n'a jamais cessé depuis 20 ans, a de nouveau atteint des sommets en 2011. Entre guillemets, en 2011, la fuite nette des capitaux privés pourrait s'établir à 80 milliards de dollars, soit plus du double du total de 2010, selon le vice-ministre russe du développement économique. Et sans espoir de retour, selon un quotidien des milieux d'affaires, Vedomosti, numéro du 2 novembre 2011, qui titrait récemment, entre guillemets, « cet argent qui ne reviendra pas ». Medvedev a beau avoir lancé ce qu'il appelle, entre guillemets, « la modernisation de l'économie », il est vrai que les investissements publics et surtout privés dans la production, le développement de l'économie et le renouvellement des infrastructures sont quasi nuls depuis plus de 20 ans, et avoir débloqué des sommes colossales à cet effet et avoir choisi, près de Moscou, l'emplacement d'une Silicon Valley à la russe, rien n'y fait. L'argent public disparaît dans les poches sans fond des privilégiés du régime. Et pas seulement du fait que la corruption atteint des sommets toujours repoussés, mais parce que les nantis, bureaucrates et nouveaux bourgeois n'ont toujours aucune confiance dans leur propre système. Un recul terrible pour les classes laborieuses. Dire, comme l'Académie des sciences de Russie, que, entre guillemets, 90% des Russes ont été les perdants des 20 dernières années recouvre sans doute une réalité statistique. Mais cela en cache une autre, sociale celle-là. Car ce sont les travailleurs des villes et des campagnes qui ont eu le plus à perdre à l'effondrement de l'URSS sous les coups de sa caste dirigeante. Les petits bourgeois qui avaient cru ou voulu croire à l'époque que cela leur apporterait bonheur et aisance matérielle, et qui pour cela ont accepté de jouer le rôle de fantassins du camp dit démocrate, ont-ils perdu, outre leurs économies, certaines illusions dans l'affaire? Cela reste à vérifier. Les travailleurs, eux, ont matériellement et socialement bien plus perdu que quiconque à la disparition de l'URSS. Matériellement, parce que la thérapie de choc des Eltsine, Gaïdar et de leurs conseillers occidentaux, ce sont d'abord les travailleurs qui en ont subi le choc, de plein fouet. Qu'ils soient en activité ou en retraite, ouvriers, techniciens, employés, enseignants, infirmières, etc., se sont brutalement retrouvés avec des salaires ou pensions laminés par l'inflation. Ils ont aussi dû affronter un phénomène inconnu du temps de l'URSS, le chômage de masse. Vendus à l'encan, démantelés, les entreprises licenciaient ou, ce qui revenait au même, ne versaient plus les salaires pendant des mois. Et quand on recevait enfin son salaire ou sa pension, vu l'hyperinflation des années 1992-1993, cela ne valait plus rien. Ce sont des dizaines de millions de travailleurs, l'URSS comptait 280 millions d'habitants, que la disparition de l'URSS a jeté dans le dénuement et dans une déchéance durable s'agissant des régions où il n'y a plus aucun emploi. Des millions de travailleurs moldaves, tadjiks, ouzbeks, ukrainiens ont dû émigrer pour survivre, parfois en Russie, où, traités comme des parias, rançonnés par la police, ils sont employés aux tâches les plus pénibles et les plus mal payées. Comment s'étonner dans ces conditions que l'alcoolisme et la toxicomanie fassent des ravages ? En Asie centrale, les multiples petits boulots liés au trafic de la drogue sont souvent un des rares moyens de gagner son existence. Mais partout, certains ont cherché à oublier l'enfer du quotidien dans des paradis artificiels. Et comme les services médicaux et sociaux publics cessaient de fonctionner, n'étant plus subventionnés, ou devenaient privés et d'un coût inaccessible, la santé publique a fait un énorme bond en arrière dans les milieux populaires. Des maladies comme la tuberculose ont fait un retour en force. D'autres se répandent, tels le sida, sans que rien de sérieux ne soit entrepris pour lutter contre ces fléaux. Quant à l'espérance de vie de la population, surtout masculine, elle a brutalement reculé à 62 ans, au niveau qu'elle avait dépassé, et de loin, depuis plus d'un demi-siècle. Un phénomène comme on n'en connaît aucun autre exemple, hormis en période de guerre. Pour les mêmes raisons, on a vu la courbe démographique s'inverser. Faute d'argent ou d'emploi, faute d'avoir la moindre confiance dans l'avenir, la natalité en Russie, comme en Ukraine et ailleurs, a chuté avec la fin de l'URSS. Et la population continue à décroître fortement. Malgré l'afflux de millions de Russes et immigrants venant, entre guillemets, de l'étranger proche, les républiques ex-soviétiques, la Fédération de Russie est tombée de 149 millions d'habitants en 1991 à moins de 143 millions en 2010. Les inégalités sociales ont explosé depuis Gorbatchev. Elles forment un gouffre béant entre une couche privilégiée, 3 à 4 millions de bureaucrates et de bourgeois, et le reste de la population, dont plus de 21 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Quant au chômage, il frappe officiellement 8% de la population active. Bien plus en réalité, car, mal ou pas indemnisés, nombre de chômeurs préfèrent se débrouiller comme ils peuvent. Certes, la misère noire de l'ère Eltsine a, sauf par endroits, disparu. Mais avec les nouvelles attaques contre les services publics, le regain de l'inflation sur fonds de salaire qui ne suivent pas, les contre-coups sur l'emploi de la crise mondiale, les services sociaux, santé, éducation qui deviennent payants ou sont laissés au bon vouloir d'organismes caritatifs, même dans les grandes villes, la population doit se débattre face à une misère rampante. Et puis, au-delà du sort individuel de millions de travailleurs depuis 20 ans, il y a les conséquences collectives de la chute de l'URSS pour la classe ouvrière. Il faut rappeler que, du temps de Brejnev ou de Gorbatchev, cette classe ouvrière non seulement représentait la classe numériquement la plus importante de l'URSS, mais qu'elle se trouvait répartie dans tout le pays, concentrée dans des entreprises bien souvent géantes. Des combinats métallurgiques ou chimiques, tels Uralmash, Sverdlovsk et Katerinburg, avec plus de 40 000 ouvriers, il y en avait des centaines, et on en trouvait dans presque toutes les villes, grandes ou moyennes. Les privatisations, la destruction de l'économie par le pillage des bureaucrates ont, depuis 20 ans, considérablement réduit ce maillage industriel, ne serait-ce que parce que dans d'anciennes usines géantes, il ne reste plus que quelques milliers, voire centaines de postes occupés. Ou parce qu'avec la fin de la planification, la rupture des relations entre ex-républiques soviétiques, les entreprises se sont retrouvées sans fournisseurs ni débouchés. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'en Russie, il reste des dizaines de, entre guillemets, « monovilles » dont la vie tourne autour d'une seule et grande usine, car elles ont été conçues et construites ainsi lors de l'industrialisation des années 30. On a vu, à l'occasion d'explosions de colère ouvrière, il y a un an ou deux, combien cette situation, toute une population solidaire de ses ouvriers dans une ville centre de pouvoir, pouvait créer de problèmes au gouvernement, au point qu'il a dit vouloir démanteler certaines de ces villes. Cela n'en souligne que plus ce qu'ont gagné les privilégiés et les possédants à une disparition de l'URSS qui a désorganisé la base industrielle de la classe ouvrière, contribuant ainsi à la diluer dans la population, à l'affaiblir en nombre et en poids social. Encore que le faible coût de la main-d'œuvre en ex-URSS ait eu aussi pour résultat que de nouvelles entreprises, souvent occidentales, se sont implantées, notamment dans l'automobile, créant parfois de toutes nouvelles concentrations industrielles, comme à Kalouga, près de Moscou. Mais en ce domaine, le facteur déterminant reste celui de la combativité alliée à la conscience politique et de classe. En 1917, dans la Russie des Tsars, une classe ouvrière ultra-minoritaire, limitée à quelques grands centres, a réussi à faire tomber l'autocratie et la bourgeoisie et à ébranler le monde. Un système qui ne ressemble à rien de connu. Fin décembre 2011, après 18 ans de négociations, la Russie a accédé à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui regroupe 153 pays réalisant 94% du commerce mondial. À cette date, la Russie était le seul grand pays à ne pas faire partie de l'OMC. Hormis le récent veto mis par deux membres de l'OMC ayant un contentieux, gazier pour l'Ukraine, territorial pour la Géorgie, avec la Russie, qu'est-ce qui a bloqué si longtemps les négociations ? La Russie elle-même. Ou plutôt, le fait que ses dirigeants ne voulaient pas se plier aux conditions mises par l'OMC à l'octroi de clauses commerciales favorables. La Russie continuait ainsi à voir ses exportations plus taxées que celles des pays membres de l'OMC et à ne pas bénéficier de facilités financières à l'importation parce qu'elle refusait de renoncer à un mode de subvention publique massive de son économie, dans les secteurs industriels et agricoles notamment, à la protection de son secteur bancaire et de celui des assurances. La Russie s'opposait à ce que des groupes financiers étrangers puissent ouvrir des filiales autres que de droit russe sur son territoire. Au protectionnisme dans le domaine des télécommunications, à la taxation des importations agricoles ou industrielles, comme dans l'automobile, l'industrie du médicament, menaçant des produits locaux aux coûts de production plus élevés, à la subvention de certains prix à la consommation, dans l'énergie, l'agroalimentaire. Bref, la Russie ne voulait pas renoncer à un mode de fonctionnement de son économie, encore en grande partie hérité de l'URSS, notamment un certain contrôle étatique du commerce extérieur. Certes, cela la handicapait vis-à-vis de l'étranger, mais cela assurait des rentes protégées par la puissance publique à de nombreux secteurs de la bureaucratie. Si finalement l'État russe a fini par céder, ce n'est pas qu'il a renoncé à défendre les intérêts de ses bureaucrates. La presse russe, les autorités se font plus discrètes, insistent sur les aménagements des mesures imposées qu'auraient obtenues les négociateurs russes et assurent que le pouvoir trouvera des moyens de compenser les pertes de certains secteurs protégés. Elles laissent surtout entendre que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'en passer par là. En tout cas, s'il veut attirer des investissements étrangers dans les secteurs de pointe ou simplement l'industrie, il doit accepter les conditions que pose l'OMC au nom des grands groupes industriels et financiers mondiaux. Tout le monde sait en effet que la situation de la Russie en la matière est dans une impasse. Les nantis n'investissent pratiquement pas dans le pays, n'ayant qu'une devise « prends l'oseille et tire-toi ». Ainsi, la Russie finit par réintégrer le marché mondial, à toute petite vitesse, et pas par la grande porte, comme le lui promettaient les chantres du capitalisme il y a 20 ans. Elle y est admise à reculons, comme dans le cas de l'OMC, et en tant que, entre guillemets, « pays émergent ». Autrement dit, comme faisant partie des pays, certes moins mal lotis que d'autres, mais faibles économiquement, alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'URSS était considérée comme l'un des deux grands. Et quand une grande porte lui est ouverte, c'est toujours celle des banques d'affaires occidentales, ou plutôt celle de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Car si le pillage de l'économie et l'exploitation des prolétaires russes servent aux nouveaux riches à gonfler leurs comptes en banque, cela sert aussi le capital financier américain et ouest-européen. On sait jusqu'où, en à peine une décennie, ce pillage sans frein de l'économie sur fond d'affaiblissement continuel du pouvoir central avait conduit le pays. Au défaut de paiement de 1998, avec un État dont le président d'alors, l'alcoolique et malade Eltsine, donnait un assez bon reflet de l'état de délabrement et d'impuissance. C'est contre cela que certains cercles dirigeants russes ont voulu réagir avec Poutine. Issu du KGB, Poutine a entrepris de restaurer l'autorité de l'État en mettant au pas les barons régionaux de la bureaucratie russe qui se comportaient en puissances indépendantes. Il a aussi maté les oligarques qui, ayant raflé des fortunes, contrôlaient des pans entiers de l'économie, en profitant de la complicité de l'affaiblissement du pouvoir central et de l'appui des grands appareils de la bureaucratie. Parmi ceux-ci, les divers services des ministères dits entre guillemets de force, l'ex-KGB, l'armée, la police, etc., estimaient ne pas avoir été aussi bien servis que d'autres lors de la curée sur les ressources économiques de l'URSS. Ils ont saisi là l'occasion de prendre leur revanche sur certains parvenus en vue de la période précédente, écartés des allées du pouvoir par Poutine. Les Kouzinski, Berezovski, Khodorkovski, qu'ils aient fui à l'étranger ou atterri en prison, furent délestés de la partie de leur fortune qu'ils n'avaient pas pu emporter dans leurs valises, telle leur société pétrolière. D'autres oligarques ne se le firent pas dire deux fois. Les Haven, Friedman, Potanin, Abramovitch, Smolensky rétrocédèrent à l'État, contre un bon prix, la plupart des entreprises qu'ils lui avaient soustraites. Partis pour un exil semi-volontaire mais doré, ils mènent une vie de parasites de haut vol, plus ou moins retraités, en France et en Grande-Bretagne. Le coup de balai de Poutine et des hommes du KGB fit que l'économie russe fut, au tournant du millénaire, en quelque sorte, entre guillemets, déprivatisée. Mais elle ne fut pas pour autant renationalisée, car les entreprises revenues dans le giron de l'État se trouvent toujours, en fait, sous le contrôle personnel de très hauts bureaucrates. À côté de patrons privés, voire de milliardaires capitalistes, comme on peut en trouver ailleurs, on trouve surtout en Russie, car ils sont bien plus nombreux que les précédents et ont plus de pouvoir qu'eux, des PDG ou présidents de sociétés publiques, souvent par action, qui doivent leur poste uniquement au fait d'être de très hauts fonctionnaires proches du pouvoir, sinon des ministres en exercice. Le pouvoir central ayant repris le contrôle des joyaux de l'économie russe, les pompes à devises de l'étranger en premier lieu, les hommes des ministères de force se sont retrouvés propulsés à tous les étages de la machinerie économico-administrative de l'État où se prennent les décisions. Selon un ancien conseiller d'Eltsine, la caste privilégiée regrouperait 3,5 millions de bureaucrates ayant des postes de responsabilité dans, entre guillemets, la verticale du pouvoir, chère à Poutine, et qui peuvent les rentabiliser. Dans les nombreux organes de contrôle, d'inspection, tels la police fiscale, à la procature, note, une place de choix, car si 89% des meurtriers finissent devant un tribunal, seuls 9,8% des auteurs de délits économiques connaissent pareille mésaventure. Dans la hiérarchie policière, militaire, dans celle des services de renseignement, les douanes, etc. Corruption, pot de vin, pillage, divers aspects d'une même réalité. Quand ils ne sont pas eux-mêmes à la tête d'entreprises semi-publiques, voire franchement privées, note, alors que les manifestations dénoncent, outre la fraude électorale, la corruption du régime, Poutine a, entre guillemets, découvert que, sur 352 dirigeants de compagnies d'électricité, publics ou semi-publics, 162 responsables, soit environ 1 sur 2, sont affiliés à 385 organisations commerciales privées. Ces bureaucrates servent de toit, c'est-à-dire de cette protection sans laquelle aucune entreprise, tant soit peu importante, ne peut fonctionner en ex-URSS. Régulièrement dénoncée par le pouvoir central, la corruption gangrène toute la vie économique et sociale. Selon certains médias, le montant de la corruption représenterait un tiers du budget de l'État. Une façon de piller et l'État, et l'économie, et la population qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En 2010, note, selon le ministère de la Justice, notons aussi la condamnation de 225 élus locaux et celle de deux députés à la Douma seulement, car une immunité judiciaire couvre les députés, entre guillemets, 120 enquêteurs, 12 procureurs, 48 avocats et 3 juges ont été condamnés à ce titre. Quant au général de la FSB, qui a succédé au KGB, qui pilotait l'organisme public chargé de l'Internet, on vient de devoir, entre guillemets, le remplacer. Il est en prison. Est-ce, après avoir été dénoncé par des collègues jaloux de sa réussite, pour avoir trempé dans un trafic lucratif de revente de smartphones volés? Quant au pot de vin, l'aspect de la corruption qui frappe le plus directement la population dans sa vie quotidienne, là aussi, cette pratique est en pleine expansion. Les niveaux inférieurs de la bureaucratie n'ayant pas forcément les moyens de rançonner directement l'État ou les entreprises. Note, entre guillemets, la corruption de tous les jours, 164 milliards de roubles, environ 40 milliards d'euros, ont été versés en pot de vin l'an dernier en Russie, faisait le gros titre de une de RBK le 15 juin 2011. Ces millions de bureaucrates, épines dorsales du régime, constituent en même temps sa base sociale, car ils représentent une partie non négligeable, estimée à 12%, de la population active masculine. Ayant la haute main sur les principales sources de revenus, ils peuvent laisser les autres à, entre guillemets, la libre entreprise. Sous réserve, savent bien les petits patrons, que leurs affaires ne prennent pas une extension telle qu'elle attirerait l'attention des hommes du pouvoir et les ennuis qui vont avec. Le moindre étant de devoir céder leur société, car, habituellement de mèche avec tel ou tel groupe de bureaucrates, les juges s'entendent pour exproprier le gêneur sous un prétexte judiciaire. Quant aux règlements de compte sanglants entre affairistes, s'ils sont moins fréquents, en tout cas moins médiatisés que sous Eltsine, ils sont bien loin d'avoir disparu. Quand, début 2000, Poutine avait succédé à Eltsine en promettant d'apporter de la stabilité dans un État qui s'effondrait, beaucoup de bureaucrates avaient applaudi à cette reprise en main. Le reste de l'opinion aussi, fatigué d'une décennie de privations et de scandales en tout genre, couvert du nom de entre guillemets, « démocratie ». Les classes moyennes, que l'on estime à 20% du total de la population russe, n'avaient pas été en reste. Elles avaient alors accepté, selon un journal russe, Gazeta.ru du 15 décembre 2011, entre guillemets, la stabilité en échange de la monopolisation du pouvoir par Poutine. Comme cela a coïncidé avec une embellie économique, mais le pays pouvait-il tomber plus bas après le krach de 1998 ? La petite bourgeoisie s'est d'autant plus faite une raison que ses revenus s'amélioraient. Mais, poursuit le journal cité, le contrat a expiré en grande partie à cause de la crise économique de 2008 et ses suites, mais aussi des agissements du pouvoir lui-même. Medvedev ayant en 2008 succédé à Poutine comme président de la Fédération de Russie, certains dans la petite bourgeoisie se sont mis à scruter le moindre signe de discorde entre les deux. Déçus par Gorbatchev, puis par Eltsine, enfin par Poutine, ils se prenaient à espérer que cette fois soit la bonne. Medvedev, disait-on, était moderne, plus jeune, et semblait renâcler à certaines décisions prises par Poutine. Même, il avait déclaré qu'il pourrait se présenter à la présidentielle de 2012. Contre Poutine ? Ils avaient enfin leur champion. Las, en octobre dernier, c'est Medvedev qui a intronisé Poutine candidat du parti du pouvoir, Russie unie, et probable futur président. Pour comble, Medvedev a même pris la tête de ce parti aux législatives de décembre. Les classes moyennes n'allaient donc pas manquer d'y sanctionner le parti qui cristallise leurs frustrations et déceptions. Alors, quand on ne connaît personne autour de soi qui ait voté pour Russie unie, mais qu'on apprend que ce parti a, entre guillemets, gagné les élections, trop, c'est trop. C'est ce dégoût, partagé par beaucoup, qui explique que, à peine les résultats annoncés, des manifestants se retrouvèrent dans la rue. Loin de décourager, les arrestations et condamnations des premiers manifestants ont fait que toujours plus de monde est venu crier dans la rue, entre guillemets, non au parti des escrocs et des voleurs. Des jeunes, pour lesquels c'était la première fois, des personnes d'âge mûr aussi, qui se souvenaient ne rien avoir vu de semblable depuis le lendemain de la chute de l'URSS. Le gros de la foule était composé de représentants de ce qu'en Russie on appelle l'intelligentsia, journalistes, avocats, artistes, architectes, acteurs, étudiants, de chefs de petites entreprises. Étaient également là tous ceux qui se sont retrouvés écartés du pouvoir, tels d'anciens ministres d'Eltsine ou de Poutine, mais aussi des politiciens libéraux, des partis de droite, des nationalistes d'extrême droite, des formations de centre-gauche, enfin quelques groupes gauchistes. Ce qu'on peut savoir, c'est que les travailleurs sont les grands absents de ces manifestations jusqu'à présent. Sans doute parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les gens en vue, sinon en tête, dans ces manifestations, généralement de droite, et connus pour reprocher à Poutine de ne pas aller assez vite, ni assez loin, dans le sens de l'instauration d'un système politique bourgeois. Mais même si ces manifestations ne les mobilisent pas, les travailleurs ont de bonnes raisons, eux aussi, même si ce ne sont pas forcément les mêmes que celles des petits bourgeois, d'être indignés par ce système, et de le combattre. Communiste et révolutionnaire, la seule politique d'avenir. Ce que ces manifestations auront comme effet lors de la prochaine présidentielle semble inquiéter le régime. Dans un discours, Poutine a dénoncé, entre guillemets, les provocations extrémistes qui pousseraient l'État, entre guillemets, vers le chaos comme en 1917. Rien que ça. En jouant l'air du « moi ou le chaos », il espère peut-être ainsi effrayer toute une partie de l'opinion, y compris chez certains manifestants, qui lui sait gré d'avoir remis de l'ordre dans la pétaudière qu'était le pays sous Eltsine. Comme candidat d'opposition acceptable à la présidentielle, Poutine vient de ressortir de sa manche un certain Prokhorov, milliardaire de son État, qu'il avait déjà pressenti il y a quelques mois pour prendre la tête d'une opposition de droite agréée par le Kremlin. Prokhorov s'étant prise au jeu, Poutine en avait pris ombrage et l'avait fait débarquer de son parti à la veille des législatives. Du coup, la marionnette y a gagné une petite aura d'opposants que Poutine pourrait maintenant recycler à son profit. Cela marchera-t-il auprès d'une partie de l'opinion ? Ou Poutine demandera-t-il à Medvedev de démissionner pour revenir à la présidence sur fond de crise comme sauveur du pays, une posture qui lui a plutôt bien réussi électoralement jusqu'alors ? Cela n'a finalement que peu d'importance. En revanche, il serait bien plus important que, dans ces événements qui secouent le paysage politique russe, une nouvelle génération apprenne à faire de la politique en s'appuyant sur les échecs, les succès, les leçons des luttes passées. Et surtout, il faudrait que, dans cette génération, des travailleurs apprennent à s'y retrouver entre les tenants du pouvoir, qui sont les ennemis de la classe ouvrière, et les opposants, entre guillemets démocrates des précédents, partisans d'une société bourgeoise qui ne serait pas moins hostile aux travailleurs que le régime actuel. Sans oublier les nationalistes, terreau d'une extrême droite raciste et xénophobe, que les nantis et le régime ménagent, entre guillemets pour le cas où. Ce qui serait plus que tout nécessaire, c'est que des militants, des organisations révolutionnaires, socialistes et communistes dignes de ce nom, cherchent, au travers de tels événements, à s'adresser aux travailleurs. Qu'ils leur donnent l'envie, non pas d'en être spectateurs, ou, comme il y a deux décennies, d'y intervenir en soutien de tel ou tel camp également opposé à la classe ouvrière, mais d'y défendre, en tant que travailleurs, une politique conforme aux intérêts de leur classe. Une politique qui milite pour un avenir qui ne soit pas placé sous l'égide de la bourgeoisie, grande ou petite, flanquée ou pas de la bureaucratie, mais un avenir débarrassé de l'exploitation de l'homme par l'homme, en Russie comme partout ailleurs. Un avenir communiste, sur lequel leurs ancêtres, il y aura bientôt un siècle, avaient ouvert la porte avec la victoire révolutionnaire d'octobre 1917. 5 janvier 2012.